En 2020, vous avez peut-être entendu parler de Jui pendant la crise de la Covid-19. Cette professeure de français perçoit alors de nouvelles agressions racistes à cause de son ethnie sud-coréenne et lance le hashtag « Je ne suis pas un virus » pour dénoncer les violences aggravées faites aux personnes catégorisées comme asiatiques. Adoptée à Séoul en 1983 par une famille de français blancs, à seulement 10 mois, elle explique avoir vécu une forme de déni de ses origines dans son enfance, qui lui aurait empêché de vivre le mal du pays. Une fois adulte, Jui questionne de plus en plus son identité à la suite d'un accident biographique, le décès de sa mère adoptive, qui vient remettre en cause tous ses repères. C'est en 2013 qu'elle décide de retourner en Corée du Sud pendant un an et demi, dans l'objectif de se reconnecter à ses racines. Là-bas, elle ouvre les yeux sur le fonctionnement d'un système d'adoption aux multiples secrets. Loin des mythes de l'abandon, de l'orphelin pauvre possédant une vie misérable dans son pays d'origine, Jui est partie chercher les réponses à ses questions directement là où elle est née, 29 ans après son départ. Entre assimilation, acculturation, migration forcée et déracinement, rencontre avec cette autrice aux identités plurielles.
Alors, du coup, bonjour Jui.
Bonjour Anne.
Alors, on va commencer par une vaste question. Qu'est-ce que c'est le mal du pays pour toi ?
Le mal du pays, c'est... Je m'étais jamais vraiment posé la question avant l'enregistrement de ce podcast. Et moi, en tant qu'adoptée, je pense que je l'ai expérimenté d'une façon particulière, je dirais, par rapport à d'autres personnes. Donc, je suis adoptée d'origine sud-coréenne. On peut dire que le mal du pays, je l'ai peut-être expérimenté quand je suis retournée en Corée du Sud de 2013 à 2015. Je ne sais pas si je l'ai expérimenté en France avant, en fait. Franchement, je me pose la question si je l'ai expérimenté en France, si j'ai ressenti le mal du pays en vivant en France concernant la Corée du Sud, parce que pendant longtemps, justement, c'est lié au fait d'être adoptée, transraciale, d'avoir été élevée par une famille blanche. Je me suis construite comme blanche aussi, donc je pense que je n'avais pas le mal du pays de la Corée du Sud, en tout cas, parce que je me considérais comme française à 100%, en fait. Pendant longtemps, je n'ai pas été dans cette démarche d'une identité plurielle. J'étais française, à point c'est tout. Mais à côté de ça, je vivais quand même du racisme, donc ça créait, on va dire, certaines dissonances. Ça créait aussi ce que j'appelle une forme de charge transraciale au quotidien, et donc je devais un petit peu gérer tout ça. Mais c'est ça qui est complexe, en fait, hein, et c'est compliqué aussi à le formuler clairement. Mais j'étais peut-être dans le déni de mes origines, du fait d'être asiatique, je pense ne pas avoir ressenti le mal du pays en concernant la Corée du Sud. Après, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ont joué aussi sur le fait que je n'ai pas ressenti ce mal du pays. Mmh. Puisque je pensais avoir été chanceuse d'être en France, donc je ne m'imaginais pas avoir une autre vie ailleurs qu'en France. J'avais l'impression donc d'avoir été sauvée aussi d'une vie misérable, que ma vie en Corée du Sud aurait forcément été dans la pauvreté, etc. Comment ressentir un mal de pays si on s'imagine, si on fantasme comme ça, mais si on a des projections négatives sur son pays d'origine ? Je l'ai ressenti progressivement quand j'ai commencé à me poser des questions sur mes origines, et c'est ce qui m'a poussée, je pense, après, à vouloir vivre en Corée du Sud, en fait, pour vraiment essayer de me reconnecter à mes origines, à mes racines aussi, et essayer de récupérer en quelque sorte une partie de moi, une partie que je considère qui a été en quelque sorte volée. En fait, comme j'expliquais, là, le mal du pays, d'abord, il est arrivé avec ce sentiment de vide identitaire, donc la volonté de retourner en tout cas en Corée du Sud pour essayer de récupérer une partie de mon identité. C'est compliqué parce que comment on peut avoir un mal du pays d'un pays qu'on ne connaît pas ? C'est ça qui est compliqué quand on est adopté, en fait. Donc j'avais ce mal du pays, mais plutôt un mal qui se définirait du point de vue identitaire. Comment le décrire à cette époque-là ? Et le mal du pays, pour moi, Il évolue en fonction de l'âge aussi, du regard qu'on a sur le pays, si on a pu y retourner ou pas. Donc moi, j'ai pu y retourner un an et demi, donc j'ai des souvenirs maintenant de la Corée du Sud. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je dirais que j'ai un petit mal du pays de la Corée du Sud. Ça me manque, en effet. Ce qui me manque, c'est la nourriture. Donc c'est pour ça que dès que je peux, je vais dans des restaurants coréens. J'ai l'impression qu'il y a certains plats qui me rappellent le goût de la Corée.
Et par exemple
alors, c'est une soupe qui s'appelle le doenjang-jjigae. Et c'est à base d'une sauce pâte de soja, en fait. Donc c'est un goût très fort. Ah. Je suis pas sûre que tout le monde apprécie, mais moi, je sais pas pourquoi, ça me rappelle la Corée. J'arrive pas à savoir pourquoi, mais il y a des goûts comme ça très atypiques qui sont pour moi associés à la cuisine coréenne. Après, quand j'étais en Corée du Sud, j'avais, je pense, une forme de mal du pays par rapport à la France. j'avais ce sentiment de ne pas avoir ma place non plus en Corée. Donc le sentiment un petit peu qu'on traduit souvent par l'expression « avoir le cul entre deux chaises » en fait. Puisque extérieurement j'étais perçue comme coréenne, mais dès que je parlais, on me renvoyait au fait que je... Que voilà, j'étais étrangère et que quelque part il y avait des Sud-Coréens qui me disaient que, qui me faisaient comprendre que j'aurais, que je devrais mieux parler. En fait, donc ça me mettait une forme de pression aussi à apprendre la langue rapidement. Ça a créé un certain blocage, hein, je pense, peut-être dans mon apprentissage de la langue. Peut-être cette facilité à parler me manquait dans la communication. D'ailleurs, en France, c'est un peu l'inverse, c'est que je suis, tant que je ne parle pas, je suis perçue comme étrangère, mais à partir du moment où je parle, ça y est, on peut me mettre dans la case française. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai dû en faire deux fois plus que les autres, dans le sens où, au niveau de la langue, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve quelque chose au niveau de ma francité, dans l'usage de la langue, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai développé, on va dire, des compétences dans le maniement de la langue française, quoi. Le fait de pratiquer la langue, ça me manque. Parce que là-bas, c'est vrai que j'étais en immersion, donc ça me permettait de progresser, et là, j'ai l'impression vraiment d'avoir perdu, et quelque part, j'ai l'impression de m'éloigner, en fait, un petit peu, bah, de ce moment de ma vie que j'ai passé, donc un an et demi en Corée du Sud, et puis bah, un peu de ma culture d'origine, quoi. C'est un combat qui est constant en fait, cette identité. Entre la partie, je dirais la partie blanche occidentale française et la partie asiatique sud-coréenne en moi en fait. Comment trouver l'équilibre aussi entre les deux en fait? Comment faire qu'une partie ne prenne pas le dessus sur l'autre? Et peut-être qu'en ce moment j'ai l'impression que, parce que ça fait longtemps aussi et à cause du Covid tout ça j'ai pas pu y retourner, j'ai l'impression quoi qu'il y a peut-être mon côté français qui prend un peu plus sur le côté sud-coréen.
Comment est-ce qu'on grandit? Donc quand on est, comme tu dis, asiatique-té, et qu'on vit dans une famille de blancs, des parents blancs, avec des frères et sœurs qui ont un visage différent du tien.
Donc bah oui, moi je me définis comme une femme asiatique et asiatique-té. Donc asiatique-té, c'est un néologisme, c'est un mot valise qui fusionne asiatique et étiqueté, c'est-à-dire être construit, être perçu, être étiqueté asiatique dans un imaginaire collectif qui, souvent dans le langage, asiatique égale asiatique-té. Beaucoup de personnes considèrent que asiatique, c'est par exemple la zone géographique d'Asie de l'Est ou du Sud-Est. Donc asiatique-té, ça permet aussi de rappeler qu'on peut être asiatique et pas forcément asiatique-té. Asiatique-té, c'est être construit comme asiatique, donc dans cet imaginaire, en fonction d'un physique. Moi, j'aime bien rappeler que je suis à la fois asiatique d'un point de vue géographique, mais aussi asiatique-té d'un point de vue racial, en fait. C'est-à-dire, dans l'imaginaire, voilà, j'ai un certain type de physique qui fait qu'on va m'étiqueter asiatique. Mais moi, je suis étonnée de voir que les gens n'avaient pas conscience de l'existence du racisme à l'égard des personnes asiatiques avant, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis petite. J'avais l'impression que beaucoup de personnes ont débarqué sur ça avec le coronavirus, quoi. Beaucoup de personnes ont pris conscience de l'existence de ce racisme. Bon, après, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, c'est déjà ça, mais bon. Pour des personnes ouais, comme moi, par exemple, qui vivent ça depuis leur plus tendre enfance, C'est un peu malaisant, tu vois, de se dire, bon, en fait, moi, je le vis depuis que je suis petite, j'en parle autour de moi et tout, mais bon, apparemment, c'est pas considéré comme du racisme. Mais... Bah, on grandit, on se construit comme blanc, en fait. On ne se perçoit pas comme différent, et je rejetais complètement toutes les personnes asiatiquetées, que ce soit dans les films, enfin les personnes que je voyais à la télé, bon très peu hein, quand même à l'époque, dans les années 90. Et puis les personnes que je pouvais côtoyer, très peu également, parce que j'ai vécu dans une famille moyenne. Enfin oui, je me suis vraiment construite comme blanche et je rejetais physique asiatique, asiatiquetée en fait. Je me trouvais pas belle, je ne trouvais pas belle les autres personnes asiatiquetées. Je parle par exemple de Lucy Liu. Alors que, bon, concrètement, c'est une belle femme, on le sait. Enfin, pour moi, elle avait des traits trop asiatiquetés. J'étais contente quand ma famille me disait « Ah, mais tu ne lui ressembles pas », parce que j'avais l'impression d'être à part, d'être unique. Parce que justement, j'avais intégré aussi ce cliché selon lequel toutes les personnes asiatiques, asiatiquetées se ressemblent. Et j'avais aussi ce cliché-là quand je suis arrivée en Corée du Sud, en fait. J'avais encore intégré ça en 2012, quand j'y suis allée pour la première fois. J'étais surprise de voir à quel point les physiques des personnes étaient différents, en fait. Et ça a permis de casser en fait le cliché que moi-même j'avais intériorisé. Et souvent, c'est avec l'expérience, la confrontation avec l'altérité aussi, qu'on se rend compte que ces clichés, enfin, la confrontation avec la réalité aussi, qu'on se rend compte que ces clichés sont faux, quoi. Grandir quand on est asiatique dans une famille blanche, c'est être dans la dénégation de soi, en fait, quelque part. C'est être dans la dénégation de ses origines, de son physique. C'est être dans une dissonance, c'est-à-dire ne pas se percevoir comme blanc et puis avoir ce qu'on appelle l'épreuve du miroir ou des vidéos, tu sais, à chaque fois qu'on est objectivé à travers une image, c'est mal le vivre.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne se représente pas comme on est finalement. Ça crée une dissonance entre ce qu'on est intérieurement, c'est-à-dire comme blanc, ou ce qu'on souhaiterait être, tu vois, parce qu'on est entouré de blanc, parce qu'on trouve aussi d'un point de vue esthétique que les personnes blanches sont plus belles et qu'on aimerait avoir les mêmes traits, avoir un nez fin, avoir des grands yeux, etc. Enfin, et donc du coup, comme on a intégré ces normes, qui sont les normes dominantes aussi, hein, on n'accepte pas son physique. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'adoptés racisés. Et parce que accepter son physique, c'est accepter quelque part la différence. Et je pense que ça, peut-être après, d'un point de vue psychologique, c'est peut-être lié aussi à la peur d'être à nouveau abandonné. Même si l'abandon, là aussi, il y a quelque chose à définir plus clairement. Mais en tout cas, c'est comme ça, en tout cas dans la mythologie de l'adoption, c'est comme ça qu'on perçoit la raison pour laquelle on a été adopté, c'est-à-dire qu'on a été abandonné, qu'on n'a pas été aimé. Et donc peut-être, insidieusement, se considérer comme différent, c'est ne pas être considéré comme membre à part entière de la famille, et donc potentiellement être exclu, donc abandonné. Tu vois le raisonnement un petit peu, comment ça peut se faire, qu'on n'a pas forcément les mots pour le dire, mais ça se fait sous forme d'impression, de sensation et de peur aussi, la peur d'être exclu du cercle familial. C'est pour ça que moi j'étais rassurée quand ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur me disaient que je ne ressemblais pas aux autres personnes asiatiques qu'on pouvait côtoyer, qu'on voyait à la télé, etc. Moi je le comprenais comme tu es comme nous. Et tu es comme nous, ça voulait dire pour moi être blanc.
Et du coup, ça aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, peut-être qu'avec le recul, ils auraient peut-être dû se dire, oui, tu fais partie de la famille, t'es avec nous, mais tu as quand même ces origines qui font que tu vis pas la même expérience que nous.
Oui, mais je pense que là aussi, c'est un problème qui n'est pas assez perçu comme un problème. Le manque d'éducation au racisme, l'indifférence aussi à la race chez beaucoup de personnes blanches qui pensent que le racisme, ça se réduit à de la haine interpersonnelle, qu'en général, les personnes qui ont des propos, des attitudes racistes, c'est des personnes qui sont ignorantes, qui sont bêtes, méchantes, et qui mettent complètement de côté finalement l'aspect structurel des dominations dans le système raciste. Mais au moins avoir conscience que être différent, c'est pas un problème en fait. Du coup, c'est vrai que je pense qu'il faut une prise de conscience à ce niveau-là des parents adoptants pour qu'ils puissent à leur tour être à même de faire face au racisme que vivent leurs enfants en fait.
Donc t'es retournée en Corée du Sud 29 ans après avoir fait ton premier trajet aller. Et donc pendant longtemps, tu n'as pas cherché à questionner ton identité sud-coréenne et ton asiatiquetage, comme tu l'appelles. Donc quel a été le déclic pour repartir donc, sur tes traces en Corée du Sud ?
Mais en fait, ça s'est fait, j'ai l'impression que ça s'est fait par accident, même si de plus en plus je ne crois pas au hasard. Mais c'est une copine que j'avais rencontrée à Lille qui était d'origine américaine. Elle donnait des cours d'anglais sur Lille et elle m'avait dit « Écoute, l'année prochaine, j'ai postulé pour être prof d'anglais en Corée du Sud. » Et on n'avait jamais parlé de mes origines puisque je n'exposais pas mon identité en quelque sorte, je n'en parlais pas parce que voilà, j'étais pas encore dans cette phase où j'assumais. Et donc je lui ai dit écoute, c'est marrant parce que je suis d'origine sud-coréenne et j'y suis jamais retournée, donc si t'y vas ce sera l'occasion pour moi d'y retourner. Donc ça s'est fait comme ça. Donc en juin 2019, elle était déjà installée depuis quelques mois. Ça a été une réelle révélation. Suite à ce voyage, en fait, je me suis dit j'ai ressenti vraiment un besoin viscéral mais d'y retourner longtemps, enfin plus longtemps qu'un mois. Un mois, c'était trop court pour moi. Et donc j'ai tout fait pour y retourner dès l'année suivante, en 2013.
Et ça t'a fait quoi le jour où t'es sortie de l'avion, que t'as mis le premier pas sur le sol coréen ?
Oui, dès l'avion, je ressentais, en regardant par le hublot, je voyais les petites îles comme ça, je savais qu'on s'approchait de la Corée, et j'ai eu vraiment un sentiment très fort, un peu de sacré, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, j'avais l'impression de retourner là où j'aurais pu vivre en fait. D'essayer de faire ce qu'on appelle une sorte de rattrapage de toutes ces années où j'ai été arrachée à cette terre. Et après, ce qui m'a plu, c'est d'être tout de suite d'être entourée de personnes asiatiques, en fait. J'avais ce confort aussi, quelque part, ce confort de mental que je n'ai pas en France.
Mais parce que du coup, enfin, là-bas, tu n'avais pas le stress de te dire bon, là, je marche et on va me dire oh, la chinoise.
Ou oui, on va me dire bonjour en chinois, on va m'interpeller, ou on va me prendre pour une touriste. Parce que bon, ça arrive à beaucoup de personnes asiatiques, dès que je connais, dès qu'elles bougent dans une ville, qu'elles vont dans un hôtel, on leur parle en anglais.
C'est vrai.
Même quand elles font des magasins à Paris, on leur parle en anglais. Enfin, à un moment donné, ça veut dire quoi, ça? On considère qu'il n'y a pas de français asiatique.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Qu'on est tous des touristes.
Ça, c'est super drôle. Enfin, ouais. Du coup, c'est drôle.
Ouais, non, mais c'est drôle, mais c'est quand même inquiétant aussi, tu vois.
Oui, non, mais clairement, puisque je veux dire, les personnes de différentes origines en France, on te vend, on te parle français.
Ouais.
Tu vois.
Mais
tu
oui.
Prends pas pour une touriste, quoi. Non,
en fait, c'est ça, c'est ça qui est inquiétant, quoi.
Oui, oui, clairement, ouais, c'est même grave. Hein.
Comment je me suis sentie dans cette société sud-coréenne, c'était un petit peu les montagnes russes émotionnelles. Il y avait des moments assez compliqués. Notamment lié au fait que je sois adoptée. Donc comme je disais, c'est un vrai challenge pour moi d'apprendre la langue, parce que j'avais cette pression permanente entre mon physique et du coup le fait que je parle n'était pas en accord avec le physique que j'envoyais pour des personnes sud-coréennes. D'ailleurs, quand on allait au resto, je sais, parce que comme j'étais accompagnée de mon compagnon qui est blanc, on s'adressait toujours à moi, donc ça me mettait la pression, en fait, de devoir bien parler. Et ce qui est terrible, c'est que lui, comme il est blanc, et c'est là où on voit aussi le privilège blanc, parce que dès qu'il parlait, ne serait-ce que quelques mots, on le félicitait, quoi. Mmh. Et moi, c'était, je voyais plutôt dans les regards, pourquoi tu parles pas mieux, enfin,
ouais,
moi c'était le contraire. Ouais, c'était... Pour ça, c'était compliqué. Puis c'était compliqué aussi pour ma recherche de famille de naissance, parce que il y a eu des obstacles aussi, voilà. Et puis juridiquement parlant, en France, quand tu es adopté au niveau international, tu es automatiquement sous adoption plénière.
Ouais.
Donc l'adoption plénière, c'est-à-dire que juridiquement, tu es comme l'enfant biologique de tes parents adoptants. C'est-à-dire que la loi, l'adoption plénière, efface de fait tout ton passé, en fait. Ouais. C'est comme si, voilà, pour le dire concrètement, c'est comme si tu étais sortie du vagin de ta mère adoptive, quoi. Et c'est... Enfin, tu vois, c'est une fiction, ce qu'on appelle une fiction, dans le droit, une fiction juridique.
Oui.
Donc ça contribue aussi, le fait que ce soit inscrit dans la loi, le fait qu'on efface comme ça ton passé. J'ai l'impression d'avoir aussi trouvé une communauté là-bas, puisque j'ai eu la chance, dès mon arrivée, d'aller dans une guest house qui s'appelle Korut, qui veut dire Korean Roots, qui est tenue par un pasteur sud-coréen très engagé pour les droits des adoptés et des femmes non mariées en Corée du Sud. Et donc c'est une guest house qui est réservée aux personnes adoptées. Et il y a régulièrement des événements qui sont faits, là-bas des repas, etc. Et je suis arrivée, j'ai tout de suite été dans la communauté des adoptés, parce qu'il y a pas mal d'adoptés qui retournent en Corée du Sud. Donc j'étais une expatriée, mais pas comme les autres.
Pourquoi être partie dans cette quête d'identité difficile? Vaste question, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons? Je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai l'impression que ça s'est fait parce que ça devait se faire, que c'était un besoin. Après, dans ma vie, j'ai eu ce qu'on appelle un accident biographique avec le décès de ma mère. Ma mère adoptive, avec laquelle j'avais une relation très très forte. Donc elle est décédée en 2005, après 2 ans de lutte contre un cancer. Et c'est vrai que son décès, ça a chamboulé énormément de choses, ça a bougé énormément de repères. Donc ça a détruit beaucoup de choses, et donc il a fallu que je reconstruise. Et je pense que peut-être à ce moment-là, j'ai eu l'impression peut-être de perdre ma famille, parce que c'était un réel pilier. Et c'est vrai que les relations après... avec mon père, mon frère, ma sœur, ont beaucoup évolué. Je suis partie en quête plutôt d'autres familles au pluriel. Et ben, il a fallu que je devienne plus autonome et que je trouve mes propres familles. Et donc c'est dans cette recherche de famille peut-être qu'en parallèle, il y a eu cette quête d'identité. J'utilise le terme famille au pluriel parce que je considère que j'ai plusieurs familles, que ce soit des familles militantes, des familles aussi d'amis. Et dans ces nouvelles familles, finalement, avec les liens que j'ai faits avec ces personnes-là, les connexions que j'ai créées, ça m'a poussée vers un autre chemin qui est la quête la quête d'identité.
Mais surtout que toi, vu que dès le départ, t'as été déracinée un peu, ça on en parlera un petit peu plus tard.
Ouais.
Mais je veux dire, t'as pas forcément le truc de te dire, oh bah la famille, c'est les liens du sang.
Ah mais ça, c'est clair que le fait d'être adoptée, je n'ai jamais pensé le lien familial comme un lien biologique, qui est pourtant la norme. Donc mon ancien prénom c'était Justine et je considère, parce que mon nom de famille c'est Bourguin, donc ça fait très franco-français quand on pense Justine Bourguin. Et c'est vrai que ça a créé des petits moments compliqués, on va dire, pour des entretiens d'embauche ou quand on fait une réservation dans un endroit et qu'on arrive, les personnes ne s'attendent pas à voir une personne asiatique face à elle en fait, parce qu'au téléphone on n'a pas d'accent. Au mieux, on avait l'étonnement dans le regard. Au pire, on avait une question qui remettait en cause du style « c'est bien vous ?» Oui, oui. Ouais, non, mais voilà. Et en fait, c'est le voyage en Corée du Sud, c'est ce séjour d'un an et demi qui m'a donné envie de changer, parce qu'en Corée du Sud, on m'appelait par mon prénom sud-coréen parce que c'était plus facile pour les personnes sud-coréennes, en fait, de m'appeler Jui que Justine. Et c'est vrai qu'en rentrant en France, j'ai vécu un choc culturel inversé aussi en rentrant en France. J'ai eu plusieurs mois d'adaptation, c'était vraiment compliqué.
Le mal du pays inversé.
Ouais, c'est ça, le mal du pays inversé, quoi. Où j'étais là, ah, pourquoi je suis partie de Corée? Pourquoi je suis pas restée? Mais bon.
Ça arrive souvent,
t'inquiète. Ouais, surtout que je vais te raconter pour l'anecdote, là. En fait, j'ai eu du mal à ressortir. Je suis restée, on va dire, au moins 15 jours... un peu enfermée, à pas... Enfin, j'avais vraiment peur de ressortir parce que j'avais peur de, justement, de ce qui allait m'arriver dans les espaces publics. De ne plus être tranquille comme je l'étais en Corée du Sud. Donc, quelque part, j'avais envie de garder pour moi, encore quelques temps, ce sentiment de sécurité, de tranquillité mentale que j'avais en Corée du Sud, avant d'être prête, à nouveau, à aller dans les espaces publics, de sortir dans les espaces publics en France. Et ben, la première fois que donc, je suis allée faire des courses, j'ai eu le droit à une remarque raciste du vigile. Parce que, bon, tu vois, j'avais un sac à dos, donc tu es censé présenter ton sac à dos au vigile. Donc je vais vers lui, et là, il me dit « Bonjour, madame la chinoise ».
Ah, super.
Et là, j'étais complètement sidérée, mais j'ai réagi, j'ai gardé mon calme, ce qui n'est pas évident. Je lui ai dit « Non, mais c'est raciste, monsieur. Déjà, qu'est-ce qui vous permet de projeter comme ça une identité? Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis chinoise? Là aussi, c'est un cliché de considérer toutes les personnes asiatiques sont chinoises, etc. » Bon, il s'est senti mal, hein.
Bah oui, j'imagine.
Il s'est excusé, mais franchement, le mal était fait. Et je me suis dit, bon, la première fois que je sors, je me prends une remarque raciste, qu'est-ce que ça va être la suite, quoi.
Tu vois. Bonjour, madame la Chine.
Mais c'est horrible, hein, tu te rends compte? En plus, c'est une relation professionnelle, je suis censée être la cliente.
Bah oui, franchement, c'est chaud, quoi.
Mais ouais. Oui, alors, donc j'ai fait la procédure de changement de prénom en 2016. En faisant mes petites recherches sur Internet, je me suis rendu compte que l'adoption faisait partie des raisons légitimes, donc ça veut dire que j'aurais pas de refus en fait.
Ouais, c'est cool. Et dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens encore qui t'appellent Justine ou quoi?
Bah, des personnes que je ne vois pas souvent, que je revois par exemple des années plus tard. Là par exemple, récemment, j'ai recroisé par hasard une ancienne copine du lycée. Et tout de suite elle m'a vue, elle m'a dit « Ah, Justine » et tout, et ça me fait trop bizarre, hein. Vraiment, je suis plus habituée, je suis... En fait, j'ai changé de prénom. Donc ça cause toujours un petit moment de, tu vois, un petit peu de malaise, mais bon, c'est pas très grave, hein, franchement.
Oui,
mais il suffit d'expliquer et puis voilà. Non, les gens sont plutôt surpris agréablement, ils sont plutôt aussi contents pour moi en disant « Oh, mais c'est super ce que t'as fait et tout. » J'avais besoin de le faire parce que j'avais besoin aussi, le fait d'être retournée en Corée du Sud, ça m'a permis de rattraper, de récupérer une partie de mon identité, et j'avais besoin de le marquer officiellement en fait. Donc d'un point de vue administratif, j'avais besoin de marquer mon hybridité en fait, en ayant donc d'un côté mon prénom sud-coréen et de l'autre en gardant mon nom de famille français.
Dans un article que tu as publié, tu disais que donc t'avais dit à tout le monde qu'aujourd'hui ton prénom c'était Jui et plus Justine, sauf à ton père adoptif à qui tu n'as jamais pu dire, osé dire ou voulu dire.
Ouais. Alors mon père est décédé, hein, en 2017, peu de temps avant qu'il décède, il m'a fait une révélation sur le pourquoi de Justine. Il m'a dit « Ah, tu sais, nous on t'a appelé Justine parce que pour nous l'adoption c'était un acte juste ». Et donc c'était une période où j'étais justement en questionnement, tu sais, par rapport à tous ces mythes, voilà, la mythologie autour de l'adoption, le fait de sauver un enfant, etc. Et je me suis dit « Ouf, en fait, mon père, bon, il était déjà mal en point à ce moment-là, donc j'ai voulu en quelque sorte le protéger et ne pas remettre en cause sa vision de sauveur, en quelque sorte, qu'il avait par rapport à l'adoption ».
Et donc toi qui as vécu une adoption que tu qualifies de réussie, qui dit avoir vécu une enfance assez heureuse, comme tu l'écris dans ton livre. C'est quoi ton lien avec le mal du pays ?
Moi, même si je considère que mon adoption est entre guillemets réussie, je pense que c'est pas une raison pour occulter toutes ces personnes adoptées, tous ces enfants, adolescents adoptés qui ont des problèmes avec leur famille, des problèmes relationnels, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont fait des tentatives de suicide ou qui se sont suicidés aussi. Hein, et c'est vrai que si on avait des chiffres à ce niveau-là, ça nous permettrait aussi, je pense, de prendre l'ampleur des dégâts de l'adoption. Parce que je considère que l'adoption, c'est pas une chance. Pour moi, c'est un préjudice qui est lié à une séparation définitive de son pays, de sa communauté. Du coup, le mal du pays, il entre dans ces cas de figure-là, puisque je pense que ces personnes-là qui vont ressentir un mal-être, c'est sûrement parce qu'elles ont un mal de leur pays d'origine, en fait. Donc c'est pour ça que je dis réussi entre guillemets. Est-ce que c'est une adoption réussie que de grandir dans un déni de soi-même? Mais oui, je pense que ces personnes adoptées-là, c'est qu'elles ont fondamentalement un mal du pays, un mal même plus profond lié à leurs origines et au fait qu'on les ait coupées, qu'on les ait déracinées, qu'on les ait déculturées pour les assimiler dans une famille qui ne leur convient pas, dans une culture qui ne leur convient pas.
Tu parles d'acculturation, de déracinement, d'arrachement, de déportation. Donc toi, maintenant, avec ce que tu as travaillé, et les personnes que tu as rencontrées et tout, tu as vraiment une vision négative de l'adoption.
Moi, je, par rapport à l'adoption, à l'heure actuelle, j'ai une posture abolitionniste. C'est-à-dire que je pense que ce système ne peut pas continuer. Puisque pour moi, dès le début, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, dès qu'il a commencé ce système de l'adoption internationale, il a commencé pour qui et par qui. Pour moi, ce sont les pays occidentaux qui ont mis en place ce système pour satisfaire le besoin de des familles occidentales. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, en regardant un peu de plus près comment ça s'est passé dans certains pays, c'est que la façon de faire famille, la façon d'adopter occidentale, s'est imposée partout, à travers le système de l'adoption internationale, et s'est imposée aux dépens d'autres façons plus traditionnelles, plus locales, d'adopter, de faire famille. Et donc c'est là où on voit aussi que c'est problématique comme système, et en quoi c'est un préjudice que de séparer un enfant comme ça, de l'arracher à son tissu familial.
Donc l'adoption internationale serait-elle une forme de mal du pays forcé ?
Oui, enfin, c'est sûr que c'est une séparation forcée, à aucun moment on a eu notre consentement. On a eu notre mot à dire et c'est une migration forcée, quoi. En tout cas, c'est privatisé et c'est pour ça aussi que c'est problématique, parce qu'il y a des transactions financières qui se font sur les enfants et on sait quelles conséquences ça peut avoir dans certains pays où justement il y a plus de demandes, parce que c'est un marché du coup d'offres et de demandes, il y a plus de demandes de la part de familles et donc on va créer une offre, c'est-à-dire qu'on va créer des enfants qui vont être adoptables, on va créer des orphelins plutôt, parce que là aussi ça fait partie des mythes, les orphelins dans 80% des cas, des enfants placés en institution dans le monde, ce ne sont pas réellement des orphelins, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un parent, que ce soit un parent proche ou un parent de la famille élargie, qui est vivant et qui pourrait potentiellement s'en occuper si ces personnes-là avaient les moyens aussi financiers de le faire, et c'est là aussi on voit la part de responsabilité des états d'origine, des pays, ce qu'on appelle les pays sources, puisqu'en fait... Il y a dans certains pays, bah, comme par exemple la Corée du Sud, c'est lié au patriarcat local, on va dire, le fait qu'une femme doit absolument être mariée pour avoir des enfants. Et donc ce patriarcat, il n'est pas juste de l'ordre des croyances, parce qu'il a aussi des incidences réelles, puisque le gouvernement sud-coréen va donner plus d'argent aux institutions qu'aux mères non mariées, en fait, pour garder leurs enfants. Donc souvent, elles sont dans des situations ultra précaires, ce qui les oblige à se séparer de leur enfant, en fait. Elles ne trouvent pas de travail, elles n'ont pas de subventions, d'aide financière de l'État. Donc voilà, tout est fait aussi d'un point de vue systémique. Et c'est là aussi où ça pose problème dans les services d'adoption, c'est que la post-adoption n'est pas assez pris en compte, en fait. Il n'y a pas de suivi de post-adoption. Et parce qu'on considère que l'enfant a été sauvé. Cette mythologie, cet ensemble de croyances... Qui justifie des pratiques complètement asymétriques entre les pays du Nord et les pays du Sud, pour le dire un peu vite aussi, parce que voilà, c'est les pays qui sont considérés, bah, les pays occidentaux, les pays non occidentaux, quoi. Ouais. Et parce que les adoptions internationales se font majoritairement dans le sens pays non occidentaux vers les pays occidentaux. En France, toute cette mythologie n'est pas questionnée. Quand je suis revenue en France en 2015, où je me suis rendu compte de l'abîme, hein, qui existait entre moi, ma prise de conscience que j'ai eue en Corée du Sud au contact d'autres adoptés un peu militants, engagés, qui avaient mené une réflexion sur le système de l'adoption, où j'ai commencé à questionner ces mythes dans lesquels je baignais totalement. Et arrivé en France, je me rends compte qu'on en est au stade zéro encore de la réflexion là-dessus, tu vois. Un réel malaise aussi, de peut-être un mal de pays, puisque je n'avais pas en France que j'avais finalement en Corée avec cette communauté d'adoptés avec laquelle je pouvais avoir des conversations hyper intéressantes sur l'adoption, etc.
Donc toi, t'as tenté de retrouver ta mère biologique, mm-hmm. il me semble, sans succès à cause du système d'adoption coréen assez fermé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est toujours un peu compliqué d'en reparler parce que c'est une période de ma vie aussi compliquée, tu vois, de mettre des mots sur ce moment-là où j'ai dû gérer pas mal de choses, où j'ai dû gérer aussi des adoptés face à moi qui ont fait obstacle, en fait, des adoptés qui étaient dans le système de l'adoption, du service post-adoption en Corée et qui ont vraiment fait obstacle à ce que je puisse accéder à mes origines. Je pense au cas d'une employée du service de post-adoption de Holt. Donc Holt, c'est mon agence d'adoption, qui est une agence américaine qui existe depuis le début des années 50, qui a été fondée par un couple évangéliste qui baignait vraiment dans la mythologie coloniale du sauveur blanc, etc. Je me souviens très bien d'un rendez-vous que j'avais pris dans ce service de post-adoption, et donc c'était une adoptée sud-coréenne qui travaillait pour eux, qui clairement a fait obstacle, voilà. Alors que moi, j'essayais justement de jouer sur le fait qu'on était adoptées toutes les deux, que peut-être elle allait avoir de l'empathie à mon égard. La première fois que j'ai vu mon dossier en Corée en 2012, j'avais le dossier face à moi, et je savais qu'il y avait une partie à laquelle je n'avais pas accès, donc c'est hyper frustrant en fait. Et à l'époque, j'ai pas réagi plus que ça parce que voilà, peut-être que j'avais intériorisé le fait que je ne pouvais pas avoir accès à ça, que c'était normal entre guillemets, et si j'avais su, je pense que j'aurais pris le dossier, je me serais barrée en courant, quoi. J'aurais volé ce qui m'appartient finalement de droit.
Parce que
dans cette partie confidentielle, il y a des informations sur ma mère biologique, quoi. Et c'est hyper frustrant de te dire que t'as le dossier face à toi et que c'est tu horrible, peux pas y accéder, ouais. En fait. C'est un peu de la torture psychologique, tu vois,
ouais,
quelque
ouais,
part.
C'est horrible.
Ouais.
C'est compliqué. Et est-ce que tu la cherches toujours aujourd'hui, ta mère biologique ?
Non, je la cherche plus. Je fais une pause parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire, voilà. Et peut-être que la distance géographique, le fait d'être retournée en France, fait que j'ai pas forcément envie d'entamer des recherches parce que, étant sur place, ça me paraissait peut-être plus simple de faire les recherches, alors que là, avec la distance...
Et ton conjoint, du coup, c'est toujours le même qu'avec
oui.
Oui,
oui.
Colombie, pardon.
Avec qui en Corée du Sud. Non, c'est pas grave, l'abscisse, ça commence pareil.
Voilà. Ouais. Et oui, du coup, j'imagine qu'il a dû soutenir vraiment à fond dans tes recherches, dans ta quête d'identité et tout.
Oui, ça a été un réel soutien. Hein. De toute façon, on a fait toutes les démarches ensemble, hein. Même la prise de conscience du racisme que je vivais. Voilà, il est venu avec moi en Corée du Sud, il m'a accompagnée, il a vécu avec moi là-bas et tout. Mais c'était pas évident, hein. Franchement, c'était pas toujours évident d'être, comme je le disais, avec un homme blanc en Corée parce que... Mais lui-même, on avait conscience, hein, il a écrit aussi une série d'articles sur les privilèges blancs en Corée du Sud parce qu'on avait monté un blog qui s'appelle Kibuni Oteyo. Ça veut dire comment ça va en coréen. Et on avait commencé à tenir ce blog quand on était en Corée du Sud pour parler un petit peu de réflexions qu'on avait, d'analyses qu'on avait sur la Corée du Sud. Et du coup, il a réutilisé le blog pour sa série d'articles sur les privilèges blancs. C'était pas évident parce que lui-même, il était plutôt flatté, tu vois, quand on lui faisait des compliments sur le fait qu'il parle bien coréen, etc. Et donc, c'est parce que moi, je faisais l'effort de lui dire « Mais non, mais tu te rends pas compte que moi, on me renvoie de la violence. » Et pareil, la première fois, on est allé en Corée du Sud en 2012. Au début, il était super flatté, après il a trouvé ça un peu bizarre, mais souvent des hommes qui s'arrêtaient, des jeunes hommes qui s'arrêtaient par exemple en voiture, qui ouvraient leur fenêtre, qui l'interpellaient, qui lui faisaient « handsome boy » pour dire « beau gosse ». Et lui, il était là « ouais, ouais, tu vois, il était content au début ». Et après, comme ça se répétait souvent, on s'est dit « bon, c'est quand même bizarre ».
C'est bizarre, ouais.
Tu vois. Et juste parce qu'il est blanc, quoi, tu vois. Et oui. Une fois, pour une autre anecdote... On est allé dans une boulangerie, il n'a sorti aucun mot Il a donc on a acheté du pain, il a payé tout ça, on est sorti. Au moment de payer, il y a la serveuse qui lui, la vendeuse qui lui dit en coréen, ah vous parlez bien coréen, alors qu'il n'avait dit aucun mot. Et donc il sort et on sort ensemble, on sort de la boulangerie. Je lui dis, tu te rends compte que t'as dit aucun mot en coréen? Il fait, ah ouais c'est vrai. Lui-même il s'était pas rendu compte, tu vois, il avait pris ça comme un compliment. Je suis, mais tu te rends compte qu'en fait tu n'as sorti aucun mot en coréen et elle te dit ça. Donc là aussi il a pris conscience, tu vois, que c'était juste parce que c'était un privilège blanc en fait.
Oui,
tous ces compliments qu'on lui faisait, quoi.
Du coup maintenant on va passer sur tes tatouages. Ouais. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de tes deux tatouages?
Alors j'en ai 4,
ouais.
Mais je vais en parler de 2 précisément qui sont liés à mes origines. Alors le premier que j'ai fait, je l'ai fait justement avant de retourner en Corée en 2013. Puisque à chaque fois que je fais un tatouage, je considère que je marque mon corps. Je le marque d'une période de ma vie, d'un moment fort dans ma vie. Donc là, j'ai fait un tatouage sur mon épaule gauche qui représente mes racines sud-coréennes. C'est comme un tronc, un peu représenté de façon organique, un peu comme un cœur qui bat. Et c'est le drapeau sud-coréen qui est représenté dessus, comme s'il était un peu gravé sur le bois. Donc ça représente mes racines en fait, mes racines sud-coréennes. J'avais besoin à cette époque de le graver parce que j'étais vraiment pleinement dans cette démarche de retourner dans mon pays d'origine et d'essayer de récupérer un petit peu de ma culture sud-coréenne. Donc le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est très récemment parce que j'ai une amie qui est graveuse depuis 10 ans. Et qui a décidé de commencer le tatouage, mais ce qu'on appelle le hanpok, c'est-à-dire à la main. Et donc elle avait besoin un peu de cobaye, donc je me suis proposée. Et je lui ai demandé de me faire un tigre sud-coréen. Donc je l'ai sur ma cuisse ici. Pour moi, le tigre... Alors j'ai toujours été fascinée par les tigres, hein, depuis que je suis toute petite, c'était mon animal préféré. Alors je sais pas si c'est inconsciemment lié à mes origines, parce que c'est l'animal qui représente la Corée, en fait, le tigre. Parce qu'il y avait ils ont été tués et tout ça, mais pendant longtemps il y avait des tigres en Corée. Alors je dis Corée parce que c'était aussi bien Corée du Nord, Corée du Sud. Et le tigre, c'est aussi l'un des gardiens d'un des points cardinaux du... Alors si je me trompe pas, ça doit être le gardien de l'Est. Et il représente la force. C'est important pour moi parce que j'ai l'impression qu'il y a une puissance du tatouage en fait. Mmh. Qui va être fait à un moment de notre vie, à un instant T de notre vie, mais qui va quand même rester sur le long terme et qui va nous rappeler certaines choses sur qui on est, qui on a été, qui on veut devenir et qui on est aussi peut-être profondément, tu vois. Et puis le dernier que j'ai fait, donc récemment, il y a un mois, c'est la feuille de ginkgo qui est là. Ouais. Donc le ginkgo biloba, c'est un arbre aussi qui est vénéré, qui est sacré dans des pays d'Asie de l'Est, donc que ce soit la Chine, la Corée ou le Japon. Que ce soit la première espèce qui se soit redéveloppée suite à la bombe, enfin, ouais. Je trouve que le symbole est super fort, tu vois.
Ouais.
Donc il symbolise la longévité, mais également à nouveau la force, tu vois.
Ouais.
Et le fait de, même en milieu hostile, de réussir à rester fort et forte malgré tout.
Hiroshima, à une plus petite échelle du coup évidemment, mais ce serait un peu comme le moment en fait où on t'a déraciné, où t'as été déporté entre guillemets, comme on dit, de Corée du Sud pour être amené en France, et où du coup comme tu dis après t'es retourné là-bas et que tu t'aurais poussé, tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette symbolique de l'arbre en fait qui revient du déracinement qu'on retrouve à travers la symbolique de l'arbre, hein. C'est pas pour rien que j'ai une sorte de branche d'arbre sur avec le drapeau coréen gravé sur mon épaule. Là c'est aussi une feuille de ginkgo, donc ça fait référence à l'arbre. C'est clair que c'est une façon pour moi, le tatouage, de me réenraciner quelque part, tu vois, dans une culture, parce que quand je vois d'autres sud-coréens qui ont vécu dans des familles sud-coréennes, je me dis, ah mais je suis pas vraiment sud-coréenne en fait. Et puis finalement, tu vois, je me questionne de plus en plus sur cette question d'authenticité, parce que je me dis que finalement, l'authenticité, est-ce que ce serait pas être authentique, mais à soi-même. Mais pas par rapport aux autres, pas par rapport à une culture qui serait prédéfinie de l'extérieur, à des traditions, etc. Tu vois, par exemple, les traditions familiales, je les ai jamais vécues, puisque j'ai pas de famille sud-coréenne. Donc du coup, mon authenticité, je la construis moi-même, en ayant conscience de qui je suis, d'où je pars, quel est mon vécu. Et finalement, j'ai l'impression d'être authentique à ma façon, tu vois, en tant qu'adoptée, quoi. C'est-à-dire, à la fois en ayant pioché dans mes racines sud-coréennes, dans ma culture sud-coréenne, en prenant quelque part ce qui me convient, quoi. Même si je construis mon identité plurielle, en fait. Et donc, mon authenticité, elle vient de ma conscience, en quelque sorte, d'avoir mes propres limites, de pas être totalement sud-coréenne comme d'autres sud-coréens le seraient. Tu vois, pour revenir à cette expression de mal du pays, j'ai l'impression que, comme il y a le mot mal dedans, j'ai l'impression que c'est négatif. Alors que moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif, en fait. C'est qu'au-delà du mal du pays, j'en fais quelque chose de bien pour moi, en fait.
Ouais. Donc, dans l'un de tes poèmes, tu as intitulé donc, « S'adopter, s'adapter, se dompter ». Et donc, moi, j'y ai vu directement un énorme lien avec le mal du pays que tu m'as énoncé. Et je voulais savoir qu'en est-il, pourquoi, justement, t'as mis en forme cette phrase.
Cette phrase, je l'ai imaginée de façon temporelle, en fait. C'est un peu le processus par lequel je suis passée, j'ai l'impression, pour en arriver là où je suis à l'heure actuelle. S'adapter parce que quand on est adopté, qu'on arrive dans un milieu complètement différent de celui qu'on a connu, on est obligé de s'adapter en fait. S'adopter, ben, c'est à réussir à aller au-delà du mal-être peut-être que ça peut provoquer, ce déracinement, qu'à s'accepter. C'est un peu ça, s'adopter finalement. Et c'est réintroduire un côté actif dans un processus dans lequel on a été passif. Et se dompter au haut et au bas émotionnel qu'on peut vivre, et ben réussir à dompter tout ça, quoi, et en faire une force, en fait. Mmh. Réussir à canaliser ces énergies parfois négatives qu'on peut ressentir, que ce soit de la colère, de la frustration, et essayer d'en faire quelque chose de positif.
Et donc, quel lien est-ce que tu vois entre adoption internationale et mal du pays? Donc plus d'un point de vue général, global.
J'irais de la séparation, le déracinement. Le fait d'avoir été arraché à son pays d'origine, en fait. Et donc oui, je pense que, comme on l'évoquait tout à l'heure, le mal-être que peuvent éprouver des adoptés, c'est lié à ce mal du pays, c'est-à-dire à cet arrachement-là, à cette séparation qui est une séparation définitive.
Est-ce que tu dirais que tu as surmonté le mal du pays ?
Moi, je dirais que je l'ai surmonté, parce que le fait d'être retournée en Corée du Sud, ça m'a fait un bien fou. Je l'ai surmonté si on considère que le mal du pays, c'est mal. Justement, si c'est quelque chose qui va faire du mal, qui va nuire à la personne, qui va la faire se sentir mal. Je pense que je l'ai surmonté en ce sens, ouais. Que j'ai réussi à en faire une force.
Aujourd'hui, où est-ce que tu te sens chez toi ?
Je me sens chez moi là où j'ai mes familles, en fait. Surtout que je suis dans des collectifs, etc. Enfin, j'ai des projets plutôt en France. Donc je me sens plus chez moi en France à l'heure actuelle.
Penses-tu avoir trouvé ton ou tes identités ?
Je pense avoir déjà débroussaillé pas mal de choses au niveau identitaire. Je considère ouais, que au niveau de l'adoption ou le fait que je sois une femme asiatique, etc. Je pense avoir fait un travail là-dessus. Mais mon identité peut encore évoluer avec le temps, en fait. Voilà, c'est pas quelque chose de figé, quoi.
Ok, bah merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Hyangsu. Ce mot coréen que vous venez d'entendre signifie mal du pays, mais aussi le parfum, la senteur, la jouissance et le fait de profiter de la longévité. Un bel écho au mal du pays qui vient d'être énoncé par Jui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Mal du pays, à publier, à repartager, à commenter, à noter et à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Salut !